Retrouvez Un moment pour la Terre, une émission mensuelle, chaque dernier mercredi du mois, de 9h15 à 10h sur Fréquence Mistral 99.3. Cette émission mensuelle est proposée par France Nature Environnement 04 pour mieux connaître les moyens et les raisons de préserver la nature. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois de 9h15 à 10h sur Fréquence Mistral 99.3.
Et nous sommes le mercredi 24 avril, dernier mercredi du mois. C'est l'émission France Nature Environnement avec Martine Vallon. Bonjour Martine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous parlez de l'Europe et plus précisément de la PAC.
C'est cela, oui. Donc aujourd'hui, actualité oblige. Nous sommes en ce moment à 29 jours des élections européennes. Et donc je me suis dit qu'il était intéressant d'aborder ce sujet dans la mesure où on trouve beaucoup de citoyens et de citoyennes qui estiment que l'Europe, ça ne les concerne pas et que ce jour-là, ils n'iront probablement pas voter. Je trouve que c'est un peu dommage parce que effectivement, l'Europe a beaucoup d'impact sur notre vie quotidienne, même si on n'en est pas complètement conscient. Et notamment dans le domaine de l'environnement et de la santé, l'Europe, c'est un vrai outil, c'est un organisme qui apporte des textes et des lois nous permettant d'avoir une forme de protection de chaque citoyen. Par exemple, des textes concernant les produits chimiques depuis le début des années 2000, on a un texte qui s'appelle REACH, un dispositif qui s'appelle REACH et qui concerne l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des produits chimiques. Et cela est destiné à protéger la santé humaine et l'environnement des risques qui sont liés aux substances chimiques. Donc les entreprises ont la charge de la preuve pour démontrer que ces produits qu'ils fabriquent ou qu'ils utilisent ne sont pas toxiques pour l'être humain et pour l'environnement. Donc, toutes les substances chimiques quotidiennes, enfin qui concernent l'industrie, le ménage, l'agriculture ou le bricolage, passent par des procédures de surveillance, d'évaluation sur la fabrication, l'importation et l'utilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui nous concerne directement et qui est important au quotidien. De la même façon, on a des directives concernant l'eau, par exemple, depuis les années 2000, une directive sur l'eau qui réglemente par rapport au phosphate. Ensuite, ça s'est décliné. Donc, ça a été décliné en France par une loi sur la reconquête de la biodiversité. Et donc, c'est une obligation qui est faite. En fait, l'Europe fonctionne en termes de directives, c'est-à-dire il y a une directive qui part et qui va envers tous les pays. Et ensuite, ceux-ci sont obligés de la décliner dans des lois nationales. Et donc là, cette directive, elle donne l'obligation de restaurer et de protéger la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Et on voit qu'elle date seule des années 2000, donc ça fait 18 ans. Et je crois que si on est un peu attentif, on peut se rendre compte qu'il y a déjà aujourd'hui une évolution dans nos rivières, une amélioration de la qualité de l'eau, simplement par l'application d'un certain nombre de surveillances, de lois, de directives, et par le fait que ça a entraîné aussi des moyens pour la surveillance des eaux pour la remise en état de certaines rivières. Et ça, quotidiennement, les pêcheurs, les promeneurs ou les gens qui vont au bord des rivières pourront vous dire qu'il y a une évolution grâce donc à ces textes qui obligent chaque pays à faire des efforts. On a la même chose concernant, par exemple, la faune sauvage à travers la directive oiseaux et la directive Habitat, qui sont des deux directives destinées à une protection de certaines espèces, on a donc la possibilité de voir s'améliorer l'état des habitats, devoir protéger les habitats de certaines espèces et aussi de protéger certaines variétés d'animaux. Donc, on a vraiment une influence directe de l'Europe sur notre vie, sur notre environnement, et une influence positive. Positive parce que finalement, on se retrouve au niveau européen. Je pense qu'avec l'influence de l'Allemagne, qui a des façons de concevoir la nature et la préservation de la nature et de concevoir la santé à certains moments qui sont en avance par rapport aux nôtres. On a l'influence des pays du Nord aussi, que ce soit sur la question de l'environnement ou du social. Et donc tout ça est un moyen de tirer les pays vers le haut et d'obliger chaque pays à améliorer son mode de fonctionnement, à améliorer dans certains cas la démocratie, dans d'autres cas tout ce qui concerne le social et globalement tout ce qui concerne l'environnement. Alors c'est vrai que parfois on râle sur les normes européennes, on entend beaucoup de gens se plaindre de ces normes-là, mais finalement ces normes, au vu de l'évolution de la population, elles sont une véritable protection de chaque individu et de la santé de chacun.
Est-ce qu'un pays comme les Pays-Bas est un pays phare, vu qu'ils veulent que tout le monde ait un vélo, est-ce que c'est un pays moteur pour nous ?
Bien, je pense que oui, chaque point sur lequel un pays s'empare d'une question est, pour peu qu'il ait suffisamment de représentation. Alors c'est là où on arrive à la question des élections et de la représentation. On peut agir, effectivement, si on a un groupe suffisamment fort au niveau de l'Europe, puisque les choses sont faites en fonction du poids des populations. Donc, alors il faut savoir que donc c'est 28 pays en tout, donc c'est beaucoup, mais le Parlement européen est élu au suffrage universel direct. Donc on a véritablement directement un impact sur sa constitution. Ça, c'est important. Donc on a, par exemple, en France, on a 74 députés. Il y a 751 députés globalement dans le Parlement. En France, on en a 74. Donc on a un poids politique qui peut être important. À l'heure actuelle, il y a 8 groupements politiques divers. Donc il y a un groupement politique qui est plutôt écologie et qui essaie effectivement de faire avancer toutes ces idées sur l'écologie. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger le poids que peuvent avoir nos élus au niveau du Parlement européen. En plus, ils sont une courroie de transmission, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on peut interpeller, alerter, et donc qui peuvent, à certains moments, faire influer dans un sens ou dans l'autre. Et d'ailleurs, les lobbies l'ont bien compris, puisqu'on sait qu'il existe de forts lobbies qui essaient d'influer sur les politiques. Donc c'est à nous, citoyens, d'amener peut-être une évolution du Parlement et une évolution de la prise en main par les parlementaires de cette politique. Alors, un des points que je voulais aborder aujourd'hui, effectivement, c'est la PAC, puisque c'est un des... D'abord, c'est le plus gros budget de l'Europe. Concernant la France, nous sommes le premier pays bénéficiaire du budget de la PAC européenne. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas négligeable. Il y a... pour le budget PAC sur l'Europe, 50 milliards d'euros par an. Et la France récupère 9 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment pas négligeable du tout. Et donc, c'est ce qui entraîne une certaine forme d'orientation, en fait, des politiques agricoles et d'orientation de la du type d'agriculture et des pratiques que l'on souhaite mettre en place. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que la PAC, elle a été créée en 1962. C'était une période, donc à la suite de la guerre, une période de grande pénurie. Et donc l'objectif à ce moment-là était un objectif de production massive. Et donc aujourd'hui, on n'en est plus là. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut se poser la question de la suite de « et maintenant, vers quoi voulons-nous aller ?» Donc c'est un peu ça que je voudrais développer aujourd'hui, plus particulièrement. Donc mon premier propos étant de dire ne négligeons pas l'intérêt de l'Europe et ne tournons pas le dos à ces élections parce qu'il y a des enjeux et qu'on peut influer sur ces enjeux. Et puis ensuite, de quelle façon, notamment sur le plan de la PAC, quels sont les éléments qui pourraient être proposés. Et donc, nous avons, des propositions à France Nature Environnement pour... et nous participons à un mouvement qui s'appelle Plateforme Europe et qui fait des propositions, justement, pour une nouvelle PAC et pour que soient intégrées de différentes orientations dans cette politique agricole commune.
Vous voulez écouter un petit peu de...
On peut commencer effectivement en écoutant une musique de circonstance.
De circonstance, hein. Donc la PAC, c'est pas les fêtes pascales, mais c'est la politique agricole commune. Et le morceau de circonstance, c'est l'ode à la joie de Beethoven. C'était juste un extrait de Ode à la joie avant que les chœurs arrivent sur cette belle version plus ou moins originale et pas la version plus ou moins mécanique qui a été choisie par l'Europe.
Voilà. Donc, retournons aux sources. Oui. Donc, la PAC. La PAC, donc, créée en 62. avec un objectif, nourrir la population et donc produire un maximum. C'était vraiment l'axe qui a été donné à ce moment-là. Elle a été organisée sous... les outils utilisés étaient des taxes à l'importation, une garantie des prix aux agriculteurs et une restitution aux exportations. Ça a été très vite le premier poste de l'Union européenne et ça a été très vite un effet de surproduction. Et donc, en 92, il y a eu une première réforme pour une mise en conformité avec l'Office mondial du commerce. Aujourd'hui, la PAC, c'est 40% du budget européen, donc vraiment extrêmement important. Elle est organisée donc, sous forme, ce qu'on appelle, sous trois parties qu'on appelle les piliers de la PAC. Donc le premier pilier, la première partie, ce sont des aides directes aux agriculteurs. Et ces aides-là concernent 85% du budget total. Donc c'est vraiment le secteur important. Et ces aides sont données à la surface. Donc c'est là où on voit tout de suite le premier effet pervers de ces mesures, c'est que ça n'est pas la qualité de la production qui est recherchée, mais la quantité et c'est la surface utilisée, donc qui est la surface utile. Le deuxième pilier est axé sur le développement rural. Donc ce pilier-là obtient des cofinancements de l'État, des collectivités territoriales, des régions, d'autres organismes tels que l'Agence de l'eau, etc. Donc c'est aussi c'est un levier pour influencer certaines politiques. Et c'est un soutien complémentaire. Donc développement rural, par exemple, cela concerne l'indemnité spéciale montagne, cela concerne les aides pour l'agriculture biologique à l'heure actuelle, par exemple, enfin, ou du moins celles qui étaient données jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on sait que ça s'est remis en question. Et le troisième pilier est lié à l'organisation des marchés. Donc, l'appui aux filières, par exemple. Donc, c'est en lien avec ces grandes campagnes qui sont faites à certains moments sur le lait. Le beurre, les pommes à certains moments, etc. Donc, en cas de crise, c'est ce budget-là du troisième pilier qui est utilisé.
Avant, il y avait le beurre de Noël pour... Écouler, oui. Ça n'existe plus
Non, je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, il y a eu... En fait, c'est ce qui fait qu'à certains moments, il y a des stocks qui sont trop importants. Donc, on influe, on subventionne certaines choses. Il y a eu un moment aussi, une surproduction de pommes, par exemple. Donc, les subventions allaient pour la destruction. Enfin, voilà, on influe comme ça sur le marché. Et... un des problèmes, d'ailleurs, liés à cette agriculture qui est faite à travers la PAC, c'est que, par exemple, par le soutien aux exportations, à certains moments, on arrive à faire capoter, je dirais, les agricultures des pays du Sud, par exemple. Il faut savoir qu'en Afrique, peut-être les auditeurs peuvent se souvenir de cette crise c'est au Sénégal, je crois, où les poulets arrivaient donc c'était des poulets importés d'Europe. Qui arrivaient sous forme de cuisses essentiellement, congelées, et qui inondaient le marché. Et donc, à partir de là, les producteurs de poulets locaux n'arrivaient plus à suivre. Les prix étaient largement inférieurs à ceux qu'ils pouvaient pratiquer. Et donc, ça a détruit tout un pan de l'économie locale.
Malgré le transport,
oui, puisque les subventions arrivent pour compenser un certain nombre de choses, dont le transport, notamment. Oui, c'est un des effets qui est reproché à l'Europe, qui est en lien avec cet aspect de mondialisation. Mais là encore, c'est un choix qu'on peut faire ou ne pas faire de subventionner tel ou tel secteur ou telle pratique. Et donc c'est là où il est important de décortiquer les choses et de voir dans quelle mesure on peut intervenir. Alors, cet argent de la PAC est géré par le ministère de l'Agriculture et aujourd'hui par les régions aussi, et est ensuite donc dispatché. Aujourd'hui, la France est le premier bénéficiaire de la PAC et de ce budget, avec ses 9 milliards d'euros par an, donc qui est presque totalement reversé, puisque c'est 85% d'aide directe, presque totalement reversée aux agriculteurs. Avec toujours ces aspects production, intensification, qui ont entraîné donc un certain nombre de destructions en termes d'environnement, c'est-à-dire les remembrements, et aujourd'hui justement on commence à réfléchir, et nous nos propositions vont dans le sens d'une réorganisation profonde de la PAC pour que on arrive à redresser la barre, j'allais dire, et aller vers une production, une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement et plus respectueuse de la santé des populations. Donc on voit bien l'impact direct sur chacun de nous à travers, par exemple, l'alimentation. Les subventions vont sur les grandes cultures beaucoup plus que sur les légumes frais. Donc, il va y avoir des cultures intensives et des monocultures qui vont servir effectivement à faire gagner beaucoup d'argent à certains agriculteurs, parce que là aussi, on est quand même sur une très grande disparité au niveau de la France entre le revenu d'un agriculteur qui possède une terre très étendue. On cite souvent les céréaliers de la Beauce, mais voilà, et d'autres secteurs sont concernés aussi. Et un agriculteur d'une zone rurale comme on en trouve chez nous. Donc il y a vraiment des grandes disparités de situation. Ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, c'est que en termes d'aide et de subvention, les tomates en boîte sont subventionnées, mais pas les tomates fraîches. Donc ça signifie que ça ne va pas aider, conforter le petit maraîcher local qui fait des tomates pour ses voisins, pour le marché, pour les alimentations locales. Mais ça va aller aider celui qui a des hectares de tomates qui partent pour le coulis. Donc là encore, favoriser l'intensif et la monoculture. Même chose, ça nous impacte sur le plan de la santé, puisque cette logique monoculture-productivisme, ça entraîne la nécessité de beaucoup d'intrants, beaucoup d'engrais, des pesticides, des insecticides et tous les cides que nous connaissons. Et donc, à partir de là, notre alimentation, l'eau de nos rivières et des nappes phréatiques, l'air, tout ça est impacté par les conséquences de ces utilisations de produits. Donc, bien sûr, l'environnement dans sa totalité, et l'orientation des choix aussi, qui entraîne... Bon, on a eu un temps, ce qui a été dans la dernière tranche de la PAC, c'est-à-dire puisque c'est renouvelé régulièrement. Donc là, il y a eu ce qu'on a appelé le verdissement de la PAC, donc des mesures qui étaient censées améliorer les choses et aller vers un mieux en termes d'environnement, en termes de santé, etc. Donc avec des subventions qui étaient données à la conversion en bio des agriculteurs. Mais là, deux choses. Alors, et d'une, les difficultés liées à l'administration et au fonctionnement relativement lourd de ce système font que les aides arrivent 2 ans, 3 ans après, enfin bon, et donc les agriculteurs ont bien du mal à les attendre. Et le deuxième point, c'est que là, il y a une diminution des aides à la conversion. Et donc, on n'aide plus que pendant un temps beaucoup plus restreint. On aide, enfin bon, il y a un recul par rapport aux objectifs et à ce qui avait été posé au départ. Et il faut savoir qu'en France, l'État n'arrive pas... Ne subventionne absolument pas, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un cofinancement, des aides couplées, etc. Mais chez nous, y a pas, l'État n'en rajoute pas ou n'aide pas à aller vers ce sens-là. Donc ça, c'est assez regrettable aussi. Bon, l'Europe, donc ça impacte aussi nos paysages. J'ai parlé des haies qu'on détruisait pour faire du remembrement. Selon les textes aussi, selon ce qui peut être apporté au niveau des forêts, par exemple, certaines aides sur certains types de traitements, etc. C'est-à-dire on peut influer aussi sur les plantations, quelles qu'elles soient, et sur les modes d'exploitation.
Et qui dit destruction des haies, ça détruit les nids des oiseaux ?
C'est ça. Ça détruit les... Donc on a une destruction d'habitat des oiseaux. On a, à travers les insecticides, une destruction de leur nourriture. Et donc, on se retrouve avec, à l'heure actuelle, un tiers ou entre un tiers et un cinquième des espèces d'oiseaux, notamment des oiseaux qui sont liés aux zones agricoles.
Et qui nichent.
Qui disparaissent. Donc, c'est vraiment, tout un ensemble de d'éléments qui s'enchaînent pour arriver vers des catastrophes, en fait. Et donc, là aussi, ces subventionnements qui vont à la surface, donc qui incitent les agrandissements des exploitations, font que lorsqu'une ferme, un fermier s'arrête, eh bien, ça va être difficile pour quelqu'un d'autre de s'installer, mais ça va être plutôt le voisin qui va s'agrandir. Et on est dans une logique comme ça, qui fait qu'on a un développement de la surface, mais une diminution des exploitations et donc des habitants, et donc une désertification aussi du milieu rural. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a un tissu social qui diminue. Donc là encore, impact important, notamment dans des régions comme les nôtres. Et puis, il y a aussi donc, un point sur lequel, à l'heure actuelle, nous, on essaie d'influer et d'agir aussi. C'est en fait tout, c'est de demander à ce qu'il y ait une conditionnalité des aides et que donc ça ne soit pas simplement quelque chose donné comme ça, mais qui entraîne une amélioration des pratiques, notamment pour ce qui concerne le bien-être animal, mais aussi sur les prix des denrées, etc. Donc c'est vraiment... Alors, cela dit, qu'est-ce qu'on propose ? Donc, depuis 2009, donc, on fait partie à France Nature Environnement et on travaille avec un groupe qui s'était créé à l'époque, qui était le groupe PAC 2013, qui s'était créé sous une forme d'association loi 1901, pour faire le constat de ce qui existait au niveau de la PAC et faire des propositions et essayer de donner des leviers d'action. Et donc aujourd'hui, en 2017, il y a eu une remobilisation de ce mouvement, de ce groupe autour de la PAC, et est issue une plateforme qui s'appelle « Pour une autre PAC ». Donc, si on veut plus d'informations sur le sujet, il suffit d'aller sur l'ordinateur et taper pour une autre PAC. Et donc là, on a un certain nombre d'informations et d'explications qui vont prolonger mon propos et peut-être le compléter, parce que parfois, bon, c'est un domaine relativement compliqué. Donc, il est bien de creuser un peu la question. Alors, cette plateforme, qui est une plateforme française, Interorganisation, elle comprend des paysans, donc comme par exemple la Confédération paysanne, comme les mouvements des jeunesses chrétiennes, comme Terre de Liens, enfin voilà, donc tout un tas de structures, de rassemblements de paysans. Elle contient des organisations environnementales, donc bien sûr FNE, la LPO aussi, le WWF, les Amis de la Terre, Greenpeace, Génération Future, donc, et d'autres. Et puis des organisations de solidarité internationale. Donc on a vraiment essayé de rassembler un certain nombre de points de vue différents, pouvant se compléter, s'articuler et de façon à faire des propositions qui obtiennent une forme de consensus un peu élargie. Donc sur ces organisations de solidarité internationale, pourquoi ? Parce que, comme je le disais, la politique agricole commune impacte les pays en voie de développement, les pays du Sud, etc. Donc, il était important d'associer à nos réflexions Action Aide France, ATTAC, Ingénieurs sans frontières, enfin, etc. Donc, un certain nombre d'organismes qui travaillent sur ces questions de mondialisation et de solidarité internationale. Et puis aussi des organisations de consommateurs, bien sûr, puisque les consommateurs sont complètement partie prenante et au bout de la chaîne, je dirais, on a l'habitude de dire les textes européens finissent dans votre assiette. Enfin, c'est vraiment l'Europe, elle arrive sur notre table. Donc, essayons de nous en préoccuper. Donc, on a dans ces organisations de consommateurs bien le mouvement des AMAP. On a Slow Food, par exemple, ou bien Chrétiens dans le monde rural, Génération Cobaye, Commerce équitable France, bon, etc., etc. Je n'ai pas cité tout le monde, j'ai juste, dans chaque groupe, je vous ai juste donné les plus connus, je dirais, de façon à ce que la vision se fasse de ce qui peut être cette plateforme. Et donc, quelles sont les priorités, quelles sont les propositions que nous pouvons faire? Alors, on parle dans cette plateforme et à FNE, on parle de la PAAC, c'est-à-dire politique agricole alimentaire commune. Donc, pour vraiment faire surgir ce concept de alimentation et faire le lien véritable entre l'agriculture et le citoyen consommateur et vraiment celui qui va consommer les produits. Donc, la première priorité serait de co-construire cette PAC avec les... Donc, l'idée de la plateforme, c'est ça, c'est de dire la PAC, elle doit être construite avec tous les citoyens, avec les consommateurs, avec les acteurs publics, l'environnement, la santé, tout ça est important. L'idée aussi, alors les objectifs seraient à la fois la valorisation du métier d'agriculteur, mais aussi la durabilité de l'agriculture, la souveraineté alimentaire, c'est un point qui est important, le dynamisme du tissu rural, la cohérence avec le développement des pays du Sud, la préservation de l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Tous ces éléments-là sont directement la base de nos réflexions. par quels moyens, donc soutenir les productions en faveur d'une alimentation saine et de qualité, donc non plus rester sur la surface, mais aller vers la production et quel type de production. Des aides plus importantes pour les fruits et légumes frais, les légumineuses produits et tous ces produits en agroécologie, donc pousser aussi le développement de l'agroécologie, développer des dynamiques locales d'approvisionnement qui répondent aux attentes des citoyens. Donc effectivement, peut-être aussi là, rendre éligibles dans les aides les filières territoriales de production, la transformation des produits, les projets alimentaires territoriaux, puisque là, on commence à avoir maintenant des organisations locales qui se font et qui seraient très utiles dans un objectif de proximité entre le producteur et le consommateur. Rendre l'agriculture biologique accessible à tous, donc permettre effectivement à chacun d'y avoir accès, donc en subventionnant plus cette agriculture-là qu'une autre. Financer la transition agroécologique des fermes. Et là, aujourd'hui, la priorité, l'urgence, c'est la sortie des pesticides. Donc, aller vers ça un maximum. Oui, il y a une question d'argent, effectivement. Mais justement, c'est là où, si on se dit pour l'Europe, c'est une priorité, arrêtons les aides à la surface et allons vers des aides à la conversion. Et donc, à partir de là, on sait que la conversion d'une ferme en ferme bio, agroécologique, etc., c'est compliqué. Ça demande une technique, une expertise, etc. Et ça demande un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a, dans un premier temps, une baisse de production qui dure, statistiquement, plus ou moins 3 ans. Et donc, il faut accompagner cette période-là de façon à ce que, ensuite, l'agriculteur puisse rétablir son niveau de vie. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, en termes de niveau de vie, on a des agriculteurs qui touchent énormément d'argent et d'autres qui n'ont même pas le SMIC, hein, et qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la PAC, elle n'a pas été extrêmement performante sur ces aspects-là d'égalité sociale. L'idée serait aussi de reconnaître et de rémunérer tout ce qui est toutes les pratiques qui sont particulièrement favorables à l'environnement, donc ce qu'on appelle les services rendus par l'agriculture. Donc voilà, on a géré les risques sanitaires en encourageant les fermes qui s'adaptent au changement climatique, par exemple, autrement que en faisant toujours de la même façon. Stimuler l'emploi agricole plutôt que l'agrandissement des fermes, donc j'en ai parlé, accompagner l'installation de tous les projets paysans, quel que soit l'âge, arrêter l'idée de l'âge limite d'installation, mais favoriser toutes les installations nouvelles. Et puis, mettre fin aux importations et exportations qui nuisent aux paysans dans les pays du Sud ou même aux pays du Nord aussi. Et donc là, il y a tout le travail à faire sur les accords de libre-échange. Et donc là, effectivement, là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est là où le choix que nous pouvons faire en termes de députés qui nous représenteront dans le Parlement européen, pourra avoir un impact. Et donc, c'est là où il est important, alors moi, je dirais, de voter pour ceux qui, en effet, vont défendre ces idées-là. À l'heure actuelle, nous avons 8 députés qui sont dans la commission agriculture et développement rural. Donc, bon, ben, plus on en aura et plus on poussera ces idées et mieux on s'en portera, à mon avis, et nous et notre environnement.
En souhaitant que les futurs députés aille dans le sens de ce qu'ils proposent et qu'ils ne changent pas de fusil d'épaule au dernier moment.
Globalement, il n'y a pas eu trop de changements dans ces niveaux-là. Mais simplement, ils ont parfois pas assez de soutien et pas assez de force, je pense, face au lobby. Et donc, c'est vrai que là, et puis après, bon, peut-être il faut les surveiller un peu aussi. À mon avis, de toute façon, tous les députés ont besoin d'être surveillés par les citoyens.
Par exemple. Prochain rendez-vous avec vous ?
Prochain rendez-vous, eh bien, le dernier mercredi du mois prochain.
Nous
mais par contre,
29 mai, oui.
Voilà. Par contre, pour l'instant, donc, nous avons le 27 avril à Valensole, à l'Éco-Ciné Verdon, avec le Colibricole, qui est une association de Valensole, la diffusion du film « Je veux du soleil », qui sera suivi d'un débat. Donc, toutes les informations sont sur notre site. N'hésitez pas à aller voir. Le 4 mai, avec la ville de Digne et le CAF, nous avons une opération quartier propre, donc à laquelle on participera, on sera présent probablement, ou du moins on soutient cette opération-là. Donc le rendez-vous est à 9h sur le parking d'Intermarché, en face du centre culturel. Ensuite, nous participons le 18 mai au mai avec la Sistude au Printemps des Castors. Même chose, on peut voir toutes les informations sur notre site. Et le 25 mai à Volonne, pour la fête de la nature, nous serons en compagnie de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, donc aussi pour des animations et des informations.
Et ça sera la veille de la fête des mers.
Et ce sera fête des mers et fête de la nature, oui, ça va bien ensemble.
Il est l'heure de vous quitter.
Oui, je pense. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va terminer avec le petit bout de musique qui nous restait. Et puis, eh bien, merci. Et donc, au mois prochain.
Le 29 mai. Merci à vous.